je voudrais très brièvement rappeler les questions qui se trouvent à l'origine de ce colloque. Son objet, vous le savez, est donc la notion de gestuel et plus précisément l'usage qui en est fait pour décrire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Son sens ainsi que ses enjeux techniques, culturels et politiques. Si cette notion et son usage pour parler de ces nouveaux dispositifs nous ont paru devoir faire l'objet d'une réflexion, c'est également parce qu'il pose un certain nombre de problèmes qui sont essentiellement liés d'ailleurs à la provenance de la notion. Tout d'abord parce que, à première vue au moins, on voit assez mal ce que ces nouvelles technologies, qualifiées donc de virtuelles, ont en rapport avec le sens premier du terme, celui, je le rappelle, d'une potentialité ou d'un être en puissance, que dans le contexte médiéval et théologique, désigne très schématiquement la virtualis et l'adjectif virtualitaire. Pour l'opposer d'ailleurs à ce qui est en acte. Il en sera question demain matin. De la même façon que leur lien par rapport au sens bergsonien et deleuzien du virtuel, dont on aura l'occasion de parler cet après-midi, mérite également d'être interrogé dans la mesure où à nouveau, le virtuel s'y trouve opposé à la notion d'actuel. Ensuite, deuxième problème, parce que si à l'émergence de ces nouvelles technologies, on pouvait à la limite encore penser, même il y a encore une décennie peut-être, une certaine forme de continuité entre ces sens philosophiques, théologiques et la dimension introduite par ces nouvelles technologies, conçues donc comme réalité intermédiaire, immatérielle, leur développement considérable a montré qu'il n'en était rien, ce qu'elles instituent étant de fait une dimension parfaitement réelle et plus encore parfaitement actuelle. Le virtuel, pourrait-on dire de façon quelque peu abrupte, n'a dans ce sens donc absolument rien de virtuel, ce pourquoi en termes finalement des techniques et davantage descriptifs, on parlera plutôt aujourd'hui de numérique, de digital ou de 2.0. Pourquoi alors interroger le virtuel pour analyser des formes de vie très concrètes, alors que l'usage du terme apparaît de fait peu rigoureux, voire finalement impropre? La raison de ce choix tient en réalité au fait que si, conformément donc à cette impropriété et cette imprécision du terme, les champs académiques et techniques parlent désormais et privilégient désormais les notions donc, de digital et de numérique, le langage courant continue pour sa part de parler de virtuel. Pour ne citer qu'un exemple, il est assez évident que spontanément, on ne parlera pas d'une amitié ou d'une relation numérique, mais d'une amitié ou d'une relation virtuelle, qu'on opposera ainsi tacitement d'ailleurs à une relation ou une amitié réelle. Interroger le virtuel, c'est donc finalement interroger la persistance de cet usage dans le langage courant. Pour quelles raisons continue-t-on de qualifier de virtuel une dimension pourtant centrale, réelle et parfaitement actuelle de notre pratique la plus quotidienne? Cette persistance témoigne-t-elle d'un soupçon, d'une méfiance, voire d'une peur? Exprime-t-elle plutôt une sorte de caractérisation subjective, au sens où le numérique serait vécu ou peut-être fantasmé comme virtuel, c'est-à-dire à nouveau comme immatériel, infini, tout-puissant, auquel cas on aurait d'ailleurs une sorte de continuité inconsciente entre le sens théologique et le sens contemporain, ainsi caractérisé par ce que, non sans ironie, Barbara Cassin, à propos de Google, a nommé un « compute divin ». Le retour au virtuel que nous proposons vise donc d'abord, on le voit, à questionner le sens d'un usage persistant autant que sa légitimité. Un dernier mot sur la perspective que nous avons souhaité adopter avec Louise Merzeau et Emmanuel Zaclav, partant donc de ce caractère extrêmement concret du virtuel et de ses connotations spontanées l'assimilant à une dimension coupée du réel, il nous a paru important de ne pas dissocier les approches historiques et philosophiques des approches davantage descriptives et techniques. D'où le choix et le risque de l'interdisciplinarité qui nous a paru absolument nécessaire pour ne pas isoler le concept et son histoire, de son application contemporaine à des dispositifs techniques qu'il s'agit dès lors d'envisager dans toute leur matérialité, leurs implications politiques et leur évolution. Pour finir, et avant de laisser la parole donc à Manuel Zaclade, Louise Marzo, Manuel Zaclade et moi-même tenons à remercier très chaleureusement ceux qui ont rendu possible ce colloque. Tout d'abord, Olivier Renaud, maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, qui a participé à sa conception et à sa réalisation. Robert Damien, directeur de l'école doctorale Connaissance, Langage, Modélisation de l'Université Paris-Ouest-Nanterre. Élie Saïd, directeur de la recherche du CNAM, qui ont soutenu financièrement et donc rendu possible ce colloque. Et enfin, Gilles Bertin, du laboratoire d'ICEL du CNAM, qui en a assuré toute la dimension technique avec beaucoup de soin et d'attention. Donc, à tous, merci beaucoup. Voilà, je laisse désormais la parole donc à Manuel Zaclade pour commencer cette matinée sur le premier axe, c'est-à-dire les industries du simulacre, de la simulation et de la relation.
Ça parle d'une intervention
du programme. J'oubliais évidemment un remerciement très important, la chaire des cultures numériques de Laval, dirigée par Mila Doué, qui est aujourd'hui parmi nous. Donc merci beaucoup.
Et le programme.
Et une dernière chose, une erreur sur le programme due à un changement, une intervention de dernière minute, enfin presque, puisque sur le programme, il est indiqué que cet après-midi, c'est Louise Marzo qui passera sur la mémoire virtuelle. Or, en réalité, ce sera Fanny Georges qui parlera cet après-midi et Louise Marzo parlera demain matin de la mémoire virtuelle.